Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile, le texte d'évangile de ce sixième dimanche après la Pentecôte vous est bien connu, puisque notre Seigneur nous dit de nous mettre en garde contre les faux prophètes. Et j'espère que vous avez plusieurs fois entendu, à l'occasion de ce sermon, les critiques tout à fait justifiées et nécessaires sur le modernisme et la nécessité de nous mettre à part des modernistes. Je voudrais aujourd'hui aller un petit peu plus loin, guidé par le commentaire de saint Jean Chrysostome sur ce chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7. Et nous voyons qu'il s'agit là, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, d'un enseignement sur la charité, une fois de plus. Et notre Seigneur, dans cet enseignement sur la charité, va donne des conseils, des directives plus exactement, pour la vie chrétienne. Et il commence ce chapitre 7 en disant « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé ». Ceci, évidemment, est utilisé par tous les libéraux qui nous reprochent notre dureté. Et cela est en début de ce chapitre où, à la fin, notre Seigneur nous dit de nous mettre à part des faux prophètes. Et s'il y a des faux prophètes, il y avait évidemment un jugement à porter sur eux. Saint Jean Chrysostome interprète le mot « juger » et il nous dit qu'il s'agit là de « condamner ». Et le sens de ces paroles, c'est non pas « ne jugez pas » au sens de fermer les yeux, n'ayez pas d'opinion, mais au sens de « ne condamnez pas ». Nous jugeons, nous voyons ce qui va, ce qui ne va pas, mais nous ne condamnons pas. Pourquoi cela ? Parce que, tout d'abord, tant qu'un homme est sur terre, s'il est mauvais, il peut devenir bon. Et puis, surtout, nous sommes de très mauvais juges et nous avons tendance à voir beaucoup plus les défauts des autres que nos péchés propres. Alors, après avoir fait cette mise en garde, qui commence bien ce chapitre qui nous parle de charité, c'est-à-dire d'amour de Dieu. Nous sommes là pour aimer le bien, aimer la vérité, aimer Dieu. Le jugement, lui, c'est-à-dire la condamnation, appartient à Dieu seul. Alors, notre Seigneur aussitôt nous dit de ne pas donner de perles aux pourceaux. Et on voit bien le complément, nous ne jugeons pas, nous ne condamnons pas, mais pour autant, nous sommes les gardiens des trésors que Dieu nous a remis et nous avons un devoir de veiller sur ces trésors et de ne pas les profaner. Par conséquent, nous ne donnons pas de perles aux pourceaux, c'est-à-dire que nous veillons à la pureté de la doctrine, à la pureté de la loi évangélique, de la pratique de la vie chrétienne, c'est-à-dire à la pureté de la charité et de l'amour de Dieu, que nous ne mélangeons pas avec l'amour du monde, et surtout, nous ne faisons pas entrer l'amour du monde dans l'amour de Dieu. Cette consigne de notre Seigneur de ne pas donner des perles aux pourceaux condamne évidemment les libéraux, qui cherchent à ne pas perdre l'amour de Dieu tout en ayant l'amour du monde, à ne pas perdre l'estime de Dieu tout en acquérant l'estime du monde. Il y a plusieurs degrés dans le libéralisme. Le degré le plus grave s'identifie à la révolution, à la subversion. Ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, libéraux, c'est ce qu'on appelait autrefois le libéral catholique, ce que Abel Bonnard appelle les modérés, et nous sommes entourés, nous les traditionalistes, de ce genre de libéraux qui n'ont pas vraiment une doctrine. J'ai cherché longtemps quelle était l'erreur de ces libéraux, jusqu'à ce que je trouve que il n'y a pas d'erreur chez ces libéraux, il y a un comportement qui est, il faut le reconnaître, de l'orgueil, à savoir vouloir être bien vu du monde, avec un orgueil qui a quelque chose de terrible, puisque on estime avoir, malgré cela, encore droit à l'estime de Dieu, à l'amour de Dieu. Donc, ne donnez pas de pain aux pourceaux, c'est-à-dire ne mélangez pas l'amour de Dieu et l'amour du monde. Dans d'autres passages que vous connaissez, mes bien chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ nous met en garde contre le monde et il dit qu'il n'a rien de commun avec le monde. Et pour bien nous le faire comprendre, il précise toujours dans ce chapitre 7 que nous devons entrer par une porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui mène à la perdition, nombreux ceux qui passent par cette voie et cette porte. Au contraire, combien étroite la porte et rétrécie la voie qui mène à la vie, et combien peu nombreux ceux qui la trouvent. Alors, Saint Jean Chrysostome fait un commentaire. La première partie qui est évidente, il y a une voie étroite, une voie large, une porte étroite, une porte large. Il y a la facilité d'un côté et les exigences de la vie chrétienne de l'autre. Cela, évidemment, est très intéressant pour nous parce que vous avez la question du petit nombre et du grand nombre. Et non seulement notre Seigneur nous dit de passer par une porte étroite, et c'est ce qu'on retient d'habitude, mais il nous annonce que nous serons peu nombreux. Par conséquent, mes bien chers frères, ne vous inquiétez pas de ce que vous êtes peu nombreux dans la tradition, peu nombreux dans la fidélité catholique. À la limite, n'allons pas nous compter. N'allons pas nous compter parce qu'il y a probablement, certainement même, des âmes droites qui ont encore la foi, qui survivent au milieu des marécages modernistes et qui conservent certainement l'amour de Dieu. Et j'ai connu une femme qui était venue au Moulin du Pin pour une session sur la crise dans l'Église. Elle rendait service à la basilique d'Avenières, à Laval. Elle était tous les jours à cette basilique, elle rendait service, elle était très dévouée. Et elle vient à notre session, et au cours d'une discussion à table, elle était tout au bout de la table, au cours d'une discussion à table qui portait sur la crise, et je l'entends, et je la vois, se mettre la tête dans les mains et puis dire ceci: « Oh mon Jésus, oh sacré cœur de Jésus, si vraiment c'est ça, alors il n'y a plus que vous qui puissiez nous sauver. » Elle a quitté la basilique d'Avenières, elle allait à la messe chez nous, mais elle était habituée à la messe quotidienne, elle n'a jamais voulu abandonner sa messe de Paul VI quotidienne. Et puis finalement, elle est partie en maison de retraite, et là, c'est la messe de Paul VI de nouveau. Il y a évidemment de ces âmes qui sont tout à fait traditionnalistes, traditionnelles, fidèles au bon Dieu, malgré le modernisme, qui ne fait que glisser sur elle comme sur les plumes d'un canard. Alors donc, nous ne nous comptons pas, nous sommes plus nombreux que nous pourrions croire. Malgré tout, il est évident que des personnes comme celles que je viens de vous décrire sont peu nombreuses, et cela se rencontre peu fréquemment. Donc nous sommes peu nombreux, c'est ainsi, c'était annoncé, la voie était droite, la porte est resserrée, ne nous en troublons pas. Saint Jean Chrysostome nous dit, notre Seigneur nous annonce que la voie est étroite, et il ne nous annonce pas qu'elle est pénible. En effet, il y a une joie réelle à servir Dieu. Saint Jean Chrysostome, avec beaucoup de bon sens, dit « S'il s'agit d'une porte, le passage est rapide », c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de sentir la souffrance de ce monde, qui est un passage rapide face à l'éternité de bonheur et de joie dans le ciel. Et après avoir donné toutes ces consignes, je reviens quand même un peu sur ce que disait Saint Jean Chrysostome, parce que la joie est importante. Saint Jean Chrysostome décrit ce que les gens du monde appellent les difficultés de la vie chrétienne. Et il dit, pour les chrétiens, ce ne sont pas des difficultés, ce sont des joies. Effectivement, les gens du monde, prenez cet exemple, vont dire à une mère de famille nombreuse, « Oh, mais madame, vous en avez tant, mais c'est terrible, c'est très difficile, ce doit être très fatigant, très exigeant, et que sais-je encore. » Vont dire au père de famille, « Mais ça doit vous coûter bien cher, et il ne doit pas vous rester grand-chose à la fin du mois. » Et les bons traditionnalistes, parents de famille nombreuse, plaignent les gens qui leur disent des choses comme celle-ci, et rient en eux-mêmes, parce qu'il est évident que la joie d'une mère qui se donne du mal pour ses enfants est supérieure à celle des mères qui ne se donnent pas de mal parce qu'elles ont peu d'enfants. La joie d'un père qui se sacrifie pour l'éducation de ses enfants est évidemment bien supérieure à ce que le monde appelle la joie, et qui n'en est pas une, de pères de famille qui peuvent faire leurs caprices parce que les enfants ne l'en empêchent pas, ils sont trop peu nombreux pour cela. Dernière consigne de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous à l'écart, faites attention des faux prophètes qui viennent à vous avec des vêtements de brebis, à l'intérieur ce sont des loups rapaces. Et notre Seigneur va être un petit peu plus précis sur tout cela. Saint Jean Chrysostome nous en donne la raison, c'est que s'il est facile de repérer un pourceau, il est difficile de repérer un faux prophète qui vient, qui est un loup déguisé en brebis. Et voilà pourquoi notre Seigneur dit « Attendite, faites attention ». Et il va donner le critère de reconnaissance, à savoir les fruits qu'il porte. Et il précise, car on doit porter du fruit. Et il précise encore, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté du Père. Et il est encore plus précis, parce que il sait combien nous pourrions être désarmés devant ce danger des faux prophètes. Et il dit, parmi ces faux prophètes, il y en aura qui assureront, au jugement dernier, assureront Dieu, qu'ils ont prophétisé en son nom, qu'ils ont chassé des démons, et qu'ils ont fait des miracles. Et alors le Seigneur leur répondra, non, 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 je ne vous connais pas, écartez-vous de moi, car vous êtes des ouvriers d'iniquité. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. On le voit bien avec notre pauvre pape François, qui est assez intéressant par plusieurs aspects. Je le dis au risque de vous choquer, Certainement, il veut sortir l'Église d'une certaine sclérose. Et à mon avis, là où le pape François est le plus intéressant, c'est pour les tradis. Bien sûr, il est à côté de la foi et c'est un faux prophète. Je ne vais pas vous dire qu'il est un vrai prophète, c'est un faux prophète, bien évidemment. Mais il se présente sous une peau de brebis. Et la peau de brebis, il faut reconnaître qu'il demande aux libéraux de s'ouvrir au monde et de cesser d'être libéraux, au contraire, s'ouvrir au monde de la bonne manière, c'est-à-dire non pas prendre l'esprit du monde, mais se pencher sur la misère du monde. Bien sûr, c'est un faux prophète parce que, sous prétexte de miséricorde, en réalité, c'est la facilité dans le péché, avec en plus cette hypocrisie terrible, à savoir qu'il fait faire le mal par d'autres. Son encyclique ou sa lettre, je ne sais plus, Amoris Laetitia, qui ouvre des portes pour donner la communion à des divorcés, remariés, pour les considérer comme des non-chrétiens, voire même pour déclarer nuls des mariages sur le simple fait qu'ils ont échoué. On ouvre la porte et puis ce sera les évêques locaux qui prendront les décisions et puis qui mettront la pagaille. Donc on peut vraiment dire que cette manière de faire est démoniaque. Il faut évidemment parler également de Monseigneur Felet. S'il y a un critère qui permet de juger Monseigneur Felet, c'est justement l'absence de bons fruits. Monseigneur Lefebvre luttait pour le maintien de la foi et la reconquête de la foi, et la reconquête de la société dans la foi. Et Monseigneur Felet, lui, se contente d'avoir une place au soleil, ou peut-être même un peu à l'ombre ou à la cave, ça c'est une autre affaire. Enfin, il cherche une place au soleil, et on ne voit plus dans la fraternité Saint-Pie-X cet enthousiasme pour former une élite conquérante, reconquérante. Bien sûr, il reste des vocations, parce qu'il y a toujours de braves jeunes et de braves gens, mais si vous êtes un peu attentif aux fruits, vous vous rendez compte que ce sont de tout petits fruits aigres, de toutes petites cerises sauvages, pas bien grosses, même si elles sont bien colorées, et pas bien juteuses et surtout pas bien sucrées, contrairement aux vrais fruits de bons arbres qui nous nourrissent. Voilà, mes bien chers frères, il me reste à rappeler une dernière consigne de notre Seigneur dans le chapitre d'aujourd'hui. J'ai sauté dessus exprès à pieds joints pour mieux la mettre en valeur à la fin du sermon. Notre Seigneur nous demande de prier, demandez, il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et il s'étend également longtemps pour faire remarquer à ses auditeurs et à nous les chrétiens que lorsqu'on nous demande quelque chose, lorsqu'un fils nous demande quelque chose, nous le donnons. Combien à plus forte raison notre Père du ciel, qui est bien plus paternel, bien meilleur et plus juste que nous, nous accordera ce que nous lui demandons, à condition évidemment de demander des choses qui soient pour le ciel. Que devons-nous demander? Nous devons demander à avoir la charité, ne pas juger, ne pas condamner. Nous devons demander à ne pas mélanger l'Esprit de Dieu avec l'esprit du monde et surtout à ne pas faire entrer le monde dans la vie chrétienne. Nous devons demander à ne pas être ébranlés par le fait d'être peu nombreux et nous devons demander de passer par la voie étroite, la voie resserrée et la porte étroite. Il faut le demander au bon Dieu parce que le monde est très attirant et il est facile de se laisser glisser vers la voie large. Nous devons demander enfin de savoir nous mettre à l'écart des faux prophètes. Je vous ai, avec ces quatre points, résumé ce sermon. Demandez à la Très Sainte Vierge qu'elle vous donne cette charité profonde qui donne une délicatesse. Vous voyez, ce sont des recommandations et des consignes qu'il n'y aurait presque pas besoin de donner à celui qui vraiment aime Dieu. Lorsqu'on aime, on est conscient de la qualité de l'amitié et on ne la met en péril ni avec les pourceaux, ni avec les faux prophètes, ni avec le monde. Au contraire, on la cultive, et ça, ce sera peut-être l'objet d'un autre sermon, cultiver l'amitié de Dieu. En tout cas, si le bon Dieu permet cette crise, ça ne peut être que pour cette raison, cultiver l'amitié, nous montrer combien nous devons entrer dans cette amitié divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.